Chapitre 3. Monsieur Stangerson avait acheté le château du Glandier à son retour d'Amérique, car son isolement au fond des bois lui avait plu tout de suite. L'endroit était idéal pour poursuivre ses recherches. Monsieur Stangerson était français, mais d'origine américaine. De très importantes affaires d'héritage l'avaient fixé pendant plusieurs années aux États-Unis. Il avait continué, là-bas, une œuvre commencée en France, et il était revenu en France pour l'achever, après avoir réalisé une grosse fortune. Sa fille et lui vivaient assez retirés et ne sortaient que pour assister à des réceptions officielles. À l'âge de 35 ans, Mathilde Stangerson n'était toujours pas mariée. Elle avait eu de nombreux prétendants, mais ils avaient tous fini par se lasser de sa froideur. Un seul avait persisté. C'était M. Robert Darzac. Mais il semblait bien qu'il n'aurait pas plus de chance que les autres et que Mlle Stangerson resterait célibataire. Soudain, quelques semaines avant les événements qui nous occupent, un bruit se répandit dans Paris, qui fut confirmé par M. Stangerson lui-même un jour qu'il sortait de l'Académie des sciences. Mathilde Stangerson allait épouser M. Robert Darzac, dès que sa fille et lui auraient terminé leur rapport qui devait résumer tous leurs travaux de ces dernières années. Je donne tous ces détails au lecteur pour qu'en franchissant la porte de la chambre jaune, il en sache autant que moi sur les Stangerson. Nous apercevions, Rouletabille et moi, la grille d'entrée du château quand notre attention fut attirée par un personnage qui semblait tellement préoccupé qu'il ne nous vit pas. Tantôt il se penchait, se couchait presque sur le sol. Tantôt il regardait dans le creux de sa main, puis faisait de grands pas, puis se mettait à courir et regardait encore dans le creux de sa main droite. Rouletabille m'avait arrêté d'un geste. « Chut ! Frédéric Larsan qui travaille, ne le dérangeons pas !» Joseph Rouletabille avait une grande admiration pour le célèbre inspecteur que tous appelaient à la sûreté le grand Fred. Le grand homme était donc déjà au travail. Nous comprîmes bientôt ce qu'il faisait. Ce qu'il ne cessait de regarder dans le creux de sa main droite n'était autre que sa montre, et il paraissait fort occupé à compter les minutes. Soudain, il releva la tête et nous vit. « Monsieur Fred, dit mon jeune ami d'un ton très respectueux, pourriez-vous nous dire si Monsieur Robert Darzac est au château en ce moment ? Voici un de ses amis qui désirerait lui parler. » On entendit alors un bruit de voiture. Nous nous retournâmes et Larsan dit à Rouletabille « Tenez, vous vouliez voir M. Darzac ? Le voilà. » Darzac sortit de la voiture et vint me demander la raison de ma présence au château dans un moment si tragique. Je remarquai alors qu'il était très pâle et qu'une grande douleur se lisait sur son visage. « Mademoiselle Stangerson va-t-elle mieux ? » demandai-je immédiatement. « Oui, fit-il. On la sauvera peut-être. Il faut qu'on la sauve. » Rouletabille intervint alors. « Monsieur, vous êtes pressé. Il faut cependant que je vous parle. Et j'ai quelque chose de la dernière importance à vous dire. » Frédéric Larsan interrompit. « Je dois vous laisser. » Et il s'éloigna. Je présentai mon ami à Robert Darzac, mais dès qu'il sut qu'il était journaliste, il me regarda d'un air de reproche, nous salua et s'apprêtait à partir quand Rouletabille lui dit cette étrange phrase. « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Ces mots furent à peine sortis de la bouche de Rouletabille que je vis Robert Darzac, qui était déjà très pâle, pâlir encore plus. Il prit le bras du jeune reporter et s'éloigna de moi en disant « Allons, monsieur, allons !» Je voulus les suivre, mais Rouletabille me fit signe de n'en rien faire. Puis je les vis entrer dans le château. Je me promenai pendant 20 minutes environ devant le château, me demandant ce que signifiait la phrase insensée qu'avait prononcée Rouletabille. À ce moment, le jeune homme sortit du château avec M. Darzac. Je vis au premier coup d'œil qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Nous nous dirigeâmes tous les trois vers le pavillon. Avant de monter les trois marches qui mènent à la porte, Rouletabille nous arrêta et demanda à brûle-pourpoint à M. Darzac.
« Eh bien, et le mobile du crime ?»«
Je n'en sais rien, monsieur. » Les médecins qui ont examiné hier les traces de doigts sur le cou de Mademoiselle Stangerson affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur.
« Cette main rouge, demandai-je, ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de Mademoiselle Stangerson ?»«
Il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de Mademoiselle Stangerson quand on l'a relevée,
répondit M. Darzac. On est donc sûr, fis-je, que c'est bien Mademoiselle Stangerson qui s'était armée du revolver puisqu'elle a blessé la main de l'assassin. Elle avait donc peur de quelque chose ou de quelqu'un.
C'est probable.
Vous ne soupçonnez personne ?
Non,
répondit Darzac en regardant Rouletabille. Rouletabille alors me dit :
Il faut que vous sachiez, mon ami, que l'enquête est un peu plus avancée qu'on ne le pense. Non seulement on sait que le revolver fut l'arme dont s'est servi pour se défendre Mademoiselle Stangerson, mais on connaît aussi l'arme qui a servi à attaquer et à frapper Mademoiselle Stangerson. C'est, m'a dit M. Darzac, un os de mouton.
On a donc trouvé un os de mouton dans la chambre jaune ?
Oui, monsieur, fit Robert Darzac, au pied du lit.
Un os de mouton dans la main d'un assassin est une arme effroyable, dit Rouletabille. Une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau.
Sur ce, M. Darzac frappa à la porte du pavillon. Quelques minutes plus tard, un homme que je reconnus pour être le père Jacques ouvrit.
Des amis, fit simplement M. Darzac.
Il n'y a personne au pavillon, père Jacques.
« Je ne dois laisser entrer personne, monsieur Robert. Mais bien sûr, la consigne n'est pas pour vous. »«
Pardon, monsieur Jacques, une question à vous poser, » fit Rouletabille.
« Dites, jeune homme, et si je puis y répondre,
votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeau sur le front ?»«
Non, mon petit monsieur. Ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeau, comme vous dites. » Ni ce soir-là, ni les autres jours.
Rouletabille grogna et se mit à inspecter le pavillon. Il pénétra alors dans le laboratoire. C'est, je l'avoue, avec une forte émotion que je l'y suivis. Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon ami. Tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée, par des fours destinés à diverses expériences de chimie. Et tout le long des murs, il y avait des armoires ou des armoires-vitrines qui laissaient apercevoir des microscopes, des appareils photographiques spéciaux. Rouletabille avait le nez fourré dans la cheminée. Du bout des doigts, il fouillait dans les cendres. Tout à coup, il se redressa, tenant un petit morceau de papier à moitié consumé. Il vint à nous qui causions près d'une fenêtre et il dit
« Gardez cela !» Monsieur Darzac.
Je me penchai sur le bout de papier que Monsieur Darzac venait de prendre et je lus ces seuls mots qui restaient lisibles. Presbytère, rien perdu, charme, ni le jar de son éclat. Et au-dessus, 23 octobre. Deux fois depuis ce matin, ces mêmes mots insensés venait me frapper, et pour la deuxième fois, je vis qu'il produisait sur M. Darzac le même effet foudroyant. Il ouvrit son portefeuille en tremblant, y mit le papier et soupira « Mon Dieu !» Rouletabille se plaça alors devant la porte de la chambre jaune.
« Voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose !» fit Rouletabille.
Puis il poussa la porte. Les volets étaient ouverts et le jour livide éclairait un désordre sinistre entre des murs de couleur jaune paille. La table ronde du milieu, la table de nuit et deux chaises étaient renversées. Elles n'empêchaient pas de voir, sur le tapis, une large tache de sang qui provenait, nous dit le père Jacques, de la blessure au front de Mademoiselle Stangerson.
En plus, des gouttelettes de sang étaient répandues un peu partout et suivaient, en quelque sorte, la trace visible des pas de l'assassin. Tout faisait penser que ces gouttes de sang venaient de la blessure de l'homme qui avait un moment posé sa main rouge sur le mur. « Quelle drôle de main !» dis-je en regardant la trace.
« C'est une main fort naturelle !» répliqua Rouletabille, « dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur. L'homme a essuyé sa main blessée sur le mur. »
Mon ami examina alors attentivement la porte et les verrous. Puis, s'asseyant par terre, il se déchaussa rapidement. Il se releva et, en chaussettes, commença à s'avancer dans la chambre. La première chose qu'il fit fut de se pencher sur les meubles renversés et de les examiner avec soin. Nous le regardions en silence. Le père Jacques lui disait de plus en plus ironique
« Oh, mon petit ! Oh, mon petit ! Vous vous donnez bien du mal !»
Mais Rouletabille redressa la tête.
« Vous avez dit la pure vérité, père Jacques. Votre maîtresse n'avait pas ce soir-là ses cheveux en bandeau. C'est moi qui étais un sot de croire cela. »
Et souple comme un serpent, il se glissa sous le lit.
« Et dire, monsieur, et dire que l'assassin était caché là-dessous. Il y était quand je suis entré à 10 heures, pour fermer les volets et allumer la lampe, puisque ni monsieur Stangerson, ni mademoiselle Mathilde, ni moi, n'avons plus quitté le laboratoire jusqu'au moment du crime. »
On entendait la voix de Rouletabille sous le lit.
« Monsieur Jacques, à quelle heure monsieur et mademoiselle Stangerson sont-ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter ?»«
À 6 heures. Enfin, mademoiselle Mathilde, car monsieur Stangerson est resté parler un moment à la porte du pavillon avec le jardinier. »
La voix de Rouletabille continuait.
« Oui, il est venu là-dessous, c'est certain. Du reste, il n'y a que là qu'il pouvait se cacher. Quand vous êtes entrés tous les quatre, vous avez regardé sous le lit ?»«
Tout de suite, il n'y avait personne. »
Rouletabille resta encore un long moment sous le lit. Puis il remit ses chaussures et examina de nouveau la chambre. Il se retourna ensuite vers la fenêtre et, montrant au père Jacques Frédéric Larsan qui n'avait pas quitté les bords de l'étang, il voulut savoir si le policier était venu lui aussi travailler dans la chambre jaune.
« Non, » répondit M. Darzac, qui n'avait pas encore prononcé un mot depuis que nous étions dans la chambre. « Il prétend qu'il n'a pas besoin de voir la chambre pour connaître le criminel. »
« Frédéric Larsan posséderait-il la vérité que je commence à pressentir ?»
murmura Rouletabille. Et le jeune reporter sortit rapidement du pavillon. Je courus derrière lui.
« Que vous arrive-t-il ? » lui demandai-je.
« Rien. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir et j'ai découvert bien des choses. »«
Quelles choses ?»«
Ceci, par exemple. »
me dit-il en sortant de sa poche un papier qui contenait un cheveu blond de femme.